Je vous invite à la prière pour que le Seigneur ouvre nos cœurs et nos oreilles, que nous puissions entendre sa voix. Père, nous te remercions parce que tu nous as laissé ta parole éternelle, qu'elle nous nourrisse et qu'elle nous conduise ce matin dans la voie de l'éternité, que nous puissions comprendre et mettre en pratique ta parole. Nous te prions, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 4, verset 10, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, nous l'avons vu tout à l'heure dans Philippiens aussi, afin de remplir toute chose. Un peu comme s'il y avait un vide, et c'est vrai que quelque part, toute la création soupire et attend l'avènement du royaume de Christ. Nous vivons les prémices de ce royaume, le début de ce royaume, nous sommes privilégiés quelque part, parce que ceux qui croient en Christ peuvent vivre déjà ce royaume présent, imparfaitement, parce que nous sommes tendus entre la chair et l'esprit, mais nous le vivons comme des prémices, nous sommes des privilégiés, nous sommes les disciples de Christ. Mais toute la création attend le règne parfait de Christ, le règne qui va venir parfaitement, qui va être l'accomplissement de ce que Dieu a promis. Nous sommes encore dans des temps d'attente, pas des temps d'accomplissement, mais l'accomplissement vient. Et cela, il l'a fait afin de remplir toute chose. Un peu comme s'il y avait des vides, des creux qui étaient à remplir et seul Christ peut les remplir. C'est pour ça aussi que, je crois que c'est Pascal qui a dit que dans l'homme, il y a comme une sorte de vide qui a besoin d'être rempli par Dieu. Et tant une forme de Dieu, qui est en forme de Dieu, voilà. Et quand on rencontre Dieu, ce vide est rempli. En tout cas, c'est mon expérience et l'expérience de tous ceux qui ont rencontré Jésus, ce vide est rempli. Amen. Maintenant, après, il faut vivre en disciple. C'est une autre paire de manches. Mais le vide est rempli. Il n'a plus besoin de chercher. Et l'homme cherche tant qu'il n'a pas rencontré Dieu, parce que il y a ce vide qui... Et dans l'univers, c'est pareil. Tout l'univers attend que Christ prenne la totalité de son règne. Et il va le faire bientôt, lors de son retour. Donc, afin de remplir toute chose, c'est lui qui a donné, donc quand il est monté, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps. Donc, le but, c'est de perfectionner les saints, les croyants, en vue de l'œuvre du service. Donc, nous avons un but, c'est de servir Dieu, dans la société, comme ambassadeur, comme témoin de Christ. Pas simplement de nous tourner les pouces et d'être content de notre salut, mais d'être des serviteurs. Et aussi pour le perfectionnement des saints, pour l'édification du corps, l'édification de l'Église. L'Église doit se construire. Et nous sommes dans cette construction, ici, sur Aubergenville, pour que cette église puisse être vraiment un phare, un rayonnement dans cette ville et cette région. Donc rappelons ce que Jésus a donné comme ministère principaux dans l'église. Alors on va l'utiliser la main, comme ça on se rappelle mieux. Donc il a donné les apôtres. Pourquoi c'est le pouce? Parce qu'il touche tous les autres. Faites ça comme ça vous vous rappelez. Un apôtre, il touche tous les autres. Donc, je veux dire, l'apôtre, il fait un peu tout. Parce que l'apôtre, il fonde des églises, donc il fait tous les autres ministères en même temps. Voilà. Ensuite, l'index, prophète. Et pourquoi le prophète? Parce qu'il désigne. Vous voyez, et il est le doigt qui désigne des choses précises, qui touche peut-être des situations particulières, etc. Enfin, bref. Ensuite, après, pourquoi ce doigt-là, l'évangéliste? Parce qu'il va chercher, vous voyez, quand les autres doigts peuvent pas chercher, lui, il va chercher les âmes. et les amène dans la bergerie, dans le troupeau de Dieu. Ensuite, après, c'est l'auriculaire, c'est ça? L'annulaire. Ça, l'annulaire? L'annulaire, oui, parce qu'il y a l'anneau. Voilà. Et ça, c'est le ministère de pasteur. Hein, c'est lui qui est en alliance avec son troupeau, qui doit agir dans le sens du bienfait du troupeau, prendre soin, etc. Voilà, donc ça, c'est le pasteur. Et le dernier, le docteur. Qu'est-ce qu'il doit faire, ce petit doigt-là? En général, vous débouchez les oreilles. Hein. C'est pas très joli, mais c'est pratique. Hein. Quand vos oreilles bouchées, en général, vous prenez pas le pouce. Hein, c'est un peu trop gros. Hein. Vous débouchez les oreilles. Hein. Donc le docteur doit déboucher les oreilles des chrétiens hein, pour que on puisse avoir une oreille attentive, claire, que la compréhension de la parole soit claire. Vous voulez avoir une compréhension claire de la parole? Alors il faut des docteurs. Et nous sommes en train de, enfin, je vais terminer aujourd'hui cette étude sur le docteur, qui est important parce que Dieu l'a donné. Alors, quel est le premier docteur que vous connaissez dans l'Église, dans la Bible? Enfin, le premier en termes d'importance, pas en termes historiques. C'est Jésus. Prenez dans Luc, chapitre 2, verset 46. Et vous allez rencontrer le docteur qui s'appelle Jésus, hein, qui ouvre les oreilles, et pas des moindres, hein, il ouvre les oreilles des grands de ce monde. Au bout de 3 jours, son ministère a commencé à 12 ans, il confondait les docteurs d'Israël, et au bout de 3 jours, donc ses parents, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les questionnant, et tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence et de ses réponses. Les docteurs de l'époque étaient surpris de la capacité doctorale de Jésus. Donc il était bien au-dessus des docteurs de l'époque. Amen. Jésus était docteur déjà à 12 ans. Alors, imaginez à 30 ans. Déjà à 12 ans, il a appris les choses de Dieu, il connaissait la loi, la parole. Il y en a qui ont 12 ans ici, levez la main. Non, ils sont à l'école du dimanche. Hein. Voilà. Eh bien, à 12 ans, ils connaissaient déjà toute la parole. Et vous savez, maintenant, on a tout un tas de moyens, heureusement pour moi, l'iPad, les machins, tout ça, pour remplacer notre mémoire défaillante. Mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Hein. À l'époque, tout était su par cœur. On a encore dans les écoles l'apprentissage par cœur, non? Un petit peu? Parce qu'à notre époque, ça existait. À l'époque de mes parents, c'était du par cœur. Hein. Beaucoup de par cœur, et maintenant de moins en moins de par cœur. Parce qu'on a les outils, les aides. Bon, c'est une bonne chose, c'est pas grave. Mais Jésus connaissait les Écritures par cœur. C'était la qualification d'un docteur. Hein. Non, il n'était pas docteur. 12 ans. Donc son ministère de docteur commence à 12 ans. Et l'enfant Jésus, donc, qui aimait écouter les docteurs de la loi, il ne put s'entendre quand il devint grand, parce que son enseignement tranchait avec les scribes et les pharisiens et les docteurs. Et nous voyons dans Jean 3, verset 1 à 3, le docteur Nicodème qui vient vers lui. Il vint de nuit, donc Nicodème, auprès de Jésus, et lui dit, « Rabbi, donc, maître, nous savons que tu es un docteur. » Venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus est le premier docteur du Nouveau Testament, et en tant que docteur, il est venu révéler la loi et les prophètes. Dans l'exercice de son ministère, donc Jésus explique les doctrines de la loi et les prophéties bibliques. Et on découvre que son ministère est un talent extraordinaire qui explique toutes ces doctrines bibliques. Dans Jean chapitre 7, verset 16, le Christ dit encore, « Si quelqu'un veut faire sa volonté, il reconnaîtra si cet enseignement vient de Dieu ou si mes paroles viennent de moi-même. » la première qualité d'un docteur, c'est qu'il ne parle pas de lui, c'est qu'il parle de Dieu. Et Jésus parlait de son Père. Dans Jean chapitre 7, verset 18, voilà ce qu'il dit. « Celui dont les paroles viennent de lui-même cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est vrai. Et il n'y a point d'injustice en lui. » Et vous, on retrouve la notion de justice, hein, qui est importante. Et en Jésus, il n'y a pas d'injustice. C'est lui qui est la justice. Il s'est offert comme juste sur la croix. Et il a été approuvé de son Père. Et quand il parlait, il ne parlait pas de lui-même, il parlait de son Père. Et c'est ça qui lui donnait la crédibilité en tant que docteur. Il ne parlait pas de lui. Il a reçu la gloire de son Père, mais lui ne parlait pas de sa gloire. C'est son Père qui l'a élevé à la gloire. Et ainsi, il nous donne un modèle de serviteur. En tant que serviteur, nous sommes appelés à chercher la gloire de Dieu et pas notre propre gloire. Et tout ce qui peut nous amener à nous mettre sur un piédestal, et ça va très très vite dans le monde chrétien, eh bien, de nous prendre des dispositions. Je sais que John Weber avait cette précaution de jamais accepter l'argent. Vous savez, quand vous commencez à avoir un ministère de guérison, il y a des gens qui vous donnent toute votre fortune. Vous êtes guéri d'un cancer en dernier stade et que, en fait, vous êtes miraculé. Donner, si vous avez 100 millions, vous donnez 100 millions. Enfin, mais oui, c'est pour ça que vous êtes exposé après. Hein, si vous ne prenez pas des précautions, il faut des précautions de sagesse. Donc lui, il se faisait salarier par l'Église, mais il ne recevait pas les dons, parce qu'il avait tellement de guérison qu'il aurait pu être extrêmement riche. Mais l'ennemi utilise ça pour nous faire chuter. Et donc il faut la sagesse. Jésus ne cherchait pas sa propre gloire. Il cherchait la gloire de son Père. Et c'est là le ministère du docteur. De la même manière que Jésus reconnut que sa doctrine n'est pas de lui, mais de celui qui l'a envoyé, ainsi le docteur ne doit pas inventer ou créer une doctrine, mais plutôt expliquer fidèlement les mystères du royaume de Dieu. Tous les mouvements évangéliques qui ont dévié, c'est parce qu'à un moment donné, il y avait un docteur, quelqu'un qui était capable dans l'enseignement de la parole, qui a dévié. Prenez les Mormons, hein, The Smith, les évangéliques. Prenez Témoins de Jéhovah, les évangéliques. Tous, ils ont dévié. Hein, parce que le docteur, à un moment donné, il a une auréole qui les suivit. Mais s'il suit sa propre gloire, eh bien, ça va à la catastrophe. Jésus enseigne la doctrine du royaume de Dieu. Il n'enseigne pas sa propre doctrine, il enseigne le règne de Dieu, le règne de son Père. Il est serviteur envoyé de son Père. Donc il parle de la doctrine du royaume, c'est-à-dire les fondements de la vie chrétienne. Et nous avons besoin de vrais fondements pour notre vie chrétienne. C'est cela que nous avons besoin, pour vivre concrètement le royaume de Dieu ici-bas. Dans le passage de Galates, chapitre 1er, il est dit « Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. » Là, c'est Paul qui parle. « Ni de moi-même, car je l'ai reçu ni appris d'un homme, mais je l'ai appris par une révélation de Jésus-Christ. » L'apôtre Paul, qui n'était pas un des apôtres qui avait vécu avec Jésus, il l'a rencontré sur le chemin de Damas, eh bien, il explique que Dieu l'a mis à l'écart et il a reçu la révélation de l'évangile directement de la part de Dieu. Et ensuite, après, il est revenu vers les autres apôtres, il a confronté cette connaissance qui était la même que celle des autres apôtres, parce qu'elle venait de Dieu. Le même Paul dit « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des administrateurs ou des gestionnaires des mystères de Dieu. » Aucun docteur n'est autorisé à prêcher des doctrines qui sont en dehors des Écritures. Jésus, à chaque fois, citait les Écritures. Il ne prêchait pas en dehors des Écritures, mais il s'appuyait sur les Écritures pour prêcher. Parce que le docteur est gardien de la parole. Et c'est pourquoi la réforme protestante était un point fondamental pour refonder l'Église de Jésus-Christ sur la parole. La parole seule, Jésus seul, la foi seule, les Écritures seules. La tradition, ça peut être bon dans certains cas, mais c'est l'Écriture seule qui fonde la foi. Le docteur a la responsabilité d'administrer les mystères du royaume de Dieu, c'est-à-dire qu'il est chargé des dispensations de ces mystères. Le docteur explique les doctrines et les mystères de Dieu au peuple de Dieu. Le docteur, il interprète donc ces écritures pour les clarifier, pour leur donner vraiment une clarification. Dans Éphésiens chapitre 3, versets 8 à 9, voilà ce qui est écrit. « À moi, donc Paul, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle la richesse insondable du Christ et de mettre en lumière la dispensation du mystère caché de toute éternité, le créateur de toutes choses. » Quand on parle de mystère, on accuse Paul d'utiliser les mots des religions païennes, en particulier grecques. Mais en fait, le mot mystère n'a pas du tout le même sens. C'est vrai que c'est un mot grec qui n'est pas utilisé par les autres apôtres ni dans l'Ancien Testament. Donc c'est un mot nouveau, mais qui explique une vérité nouvelle. Et la vérité du mystère, c'est pas quelque chose de mystérieux qu'il faut chercher de toutes ses forces, qu'il faut chercher par des maîtres qui vous expliquent ces mystères. Ça, ce sont toutes les sectes et les religions païennes qui font cela, pour rechercher la sagesse. Mais le mystère dont parle Paul, c'est un secret qui est Christ, que même nous-mêmes, on n'arrive pas à sonder, c'est vrai, ni les anges n'arrivent pas à le sonder. Parce que c'est trop grand pour nous, c'est Dieu qui l'a conçu. Mais nous pouvons l'expérimenter, ce mystère. Pourquoi ? Parce qu'il a été révélé dans l'histoire, non pas dans notre histoire à nous, mais dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire dans le plan que Dieu développe pour racheter l'homme qui s'est perdu dans le jardin d'Éden. Donc ce mystère qui a été annoncé, la venue du Christ par les prophètes, par les Écritures, eh bien, est arrivé à terme, c'est découvert dans la personne de Jésus. Et c'est pour ça que Jésus, quand il a commencé son ministère, la première chose qu'il a fait, il est entré dans une synagogue, il a ouvert le livre de la loi, et ce jour-là, certains diraient c'est le hasard, mais le hasard n'existe pas, c'est Dieu qui a permis que ce jour-là, il tombe, enfin, on lui fait lire, enfin il lit le passage qui le concerne dans l'Écriture et dit « Aujourd'hui, cette Écriture est accomplie. » C'est lui qui est venu. Donc, il a révélé quelque chose qui était caché et qui à un moment dans l'histoire, donc c'est plus un mystère, c'est quelque chose qui était caché, qui était annoncé et qui d'un seul coup ouvert. Et voyez-vous, cet homme qui était dans le temple, qui était pieux, qui attendait la venue de Jésus. Est-ce qu'il y en a ici qui attendent la venue de Jésus ? C'est très important parce que si vous l'attendez, vous allez le rencontrer. Si vous ne l'attendez pas, vous pouvez être comme les vierges folles et votre lampe peut s'éteindre et vous n'avez plus d'huile. Donc attention, il faut attendre le Seigneur. Vous ne savez pas, le jour ni l'heure, personne ne peut le dire. Ceux qui le disent, ce sont des faux prophètes. Et ce jour-là, dans ce temps-là, cet homme attendait dans le temple la venue de Jésus. Et quand il est venu, un petit enfant, il a reconnu. Il a reconnu le mystère de Dieu qui avait été annoncé et qui s'est découvert devant lui. Et il a présenté au temple et il a fait cette annonce, cette prière prophétique sur Jésus. Allô ? Voyez-vous, quand on est dans le temps de Dieu, nos yeux sont ouverts sur les réalités de Dieu. Et ainsi, il a pu voir, et il a dit « Maintenant, je peux mourir en paix, j'ai vu le Messie arrivé. » Voyez-vous, et alors que tous les docteurs de la loi ne l'ont pas vu, tous les docteurs autour, ils l'ont crucifié parce qu'ils ont dit « il blasphème, alors que c'était Jésus le Fils de Dieu ». Donc attention à notre connaissance qui peut voiler le mystère du royaume. Le mystère est révélé à ceux qui aiment Dieu de tout son cœur. Alors la première chose, il y a trois choses que je vais développer ce matin rapidement du vrai docteur. C'est tout d'abord, le docteur établit le fondement de l'Église. Le ministère de docteur est placé au fondement de l'œuvre parce que la doctrine est placée au fondement de l'œuvre. C'est souvent les apôtres qui établissent une église, hein, qui vont chercher, qui évangélisent, tout ça, qui établissent, mais c'est le docteur. Un apôtre peut être docteur aussi. Hein. Mais c'est le rôle du docteur d'établir le fondement de la révélation qui est le Christ. Dans Ésaïe, chapitre 28, verset 16, donc dans l'Ancien Testament, voilà ce qui est écrit. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. Et Paul dira, car personne ne peut poser un autre fondement, savoir Christ. Alors mes amis, c'est très étonnant, très très étonnant, cette affirmation de l'Église catholique universelle romaine, de dire que c'est Pierre qui est le fondement de l'Église. Tout simplement parce que Jésus a dit, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Mais si on lit toutes les Écritures, et en particulier les deux versets que je vous ai cités, il n'y a aucune ambiguïté que c'est Christ. Alors, pourquoi ce serait Pierre? Vous voulez suivre une église qui est fondée par un homme comme Pierre? J'aime bien Pierre, oui. Voilà, j'allais le dire, donc c'est bien. Donc c'est de la pure spéculation, simplement parce qu'en latin et en français, c'est Pierre. Mais dans l'original, dans le grec, c'est Petros, qui est le prénom de Pierre, ça veut dire caillou, et Petra, qui veut dire rocher. Hein. Et Christ est un rocher. Hello, hein. Pierre n'est pas un rocher. Hein. La preuve, c'est que à peine il a dit je suivrai partout, que Satan entre en lui, et puis et Jésus est obligé de dire à Pierre, arrière de moi, Satan. Pierre est très vulnérable, nous sommes très vulnérables. Voyez-vous, fonder une église sur un homme, quel qu'il soit, même Pierre, c'est une aberration la plus totale. Et pourtant, le serpent ancien a réussi à faire interpréter ce passage comme cela. Il faut savoir que ce n'est pas forcément évident, parce que même Luther et Calvin n'interprètent pas tout à fait pareil. Bon, bien sûr, l'un dit c'est Christ, et l'autre dit c'est la révélation que Pierre a reçue. Sur cette révélation, je ne vais pas dire, mais peu importe, c'est des variantes un peu légères. Mais si on lit Ésaïe, c'est bien Christ qui est le rocher. C'est Christ. Et pas seulement Christ, fils de Dieu, mais Christ, fils de l'homme. Parce que l'Église est constituée d'hommes et de femmes que nous sommes. Et Christ est un homme parfait. Et c'est sur ces dimensions, tout à l'heure on a parlé des dimensions de Christ, sur ces dimensions, longueur, largeur, hauteur, profondeur, etc., que l'Église est construite sur Christ. Donc Christ est notre modèle, Christ est notre fondement, Christ est notre rocher, Christ et notre ancrage. Et ça, c'est le docteur qui doit l'établir. Si un docteur n'a pas cette affirmation, c'est pas un vrai docteur selon le royaume. Une église qui n'est pas enseignée dans la vérité de la parole devient un lieu d'appui, pour un abri pour le mensonge. Il y a un passage dans Galates qui dit que dans Timothée, pardon, 1 Timothée 3,15, il dit « La maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. » Est-ce que vous croyez qu'ici, Dieu est vivant? C'est l'église du Dieu vivant. Pourquoi? Non pas parce qu'il a une forme particulière et tout ça, mais parce que vous êtes là. Et parce que vous servez le Dieu vivant dans vos cœurs. Et en tant qu'église, nous sommes des pierres juxtaposées les unes aux autres, vivantes, et qui adorons le Seigneur. Et donc, l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de quoi? De la vérité. La colonne, alors imaginez une colonne ici, un appui de la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. L'Église est censée être l'Église du Dieu vivant, mais elle doit être une colonne et l'appui de la vérité. Les gens qui parlent de l'Église, je parle d'Aubergenville, c'est de celle dont je suis responsable, je ne parle pas des autres. Chaque pasteur est responsable de son Église. Mais l'Église d'Aubergenville doit être connue pour être une colonne et un appui de la vérité. Alors, il faut que les gens qui cherchent la vérité, ils disent, je vais dans cette église pour rencontrer la vérité. Et tous les hommes et les femmes cherchent la vérité. Sachez-le. Au fond, ils cherchent tous la vérité. Et en particulier les Français, ils aiment bien la justice, la vérité, ils aiment toutes ces choses-là. Donc, nous devons être attirants pour les Français. Mais nous-mêmes, nous devons être fondés et nous devons être une église qui est appuyée, qui est un appui et une colonne de la vérité. Et ça, c'est l'affaire des docteurs de l'Église. La deuxième chose qui est importante pour... et bien sûr, l'anti-Église, donc le contraire de l'Église, c'est celle qui est appuyée sur quoi? Sur l'homme. Et le mouvement qui s'appelle comment? L'humanisme. Hein, comme le christianisme est appuyé sur Christ. L'humanisme. Et vous savez que l'humanisme a commencé à la Renaissance en même temps que la Réforme, et c'est jamais le hasard. Hein. Quand Dieu fait quelque chose, eh bien, l'ennemi, il contre-attaque. Hein. Et il a créé l'humanisme. Hein, pour que ce soit l'homme qui soit au centre de l'anti-église, c'est-à-dire l'église de Satan. Hein. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc, ça ne veut pas dire que parce que nous sommes à l'image de Dieu, que l'humaniste peut faire des choses bien. Mais il les fait avec ses propres forces. Et parfois, certains chrétiens veulent faire des choses avec leurs propres forces et ils tombent dans l'humanisme. C'est très fragile. La vie chrétienne est fragile parce que ça dépend de notre relation avec une personne. Non pas avec des principes, même si c'est le principe de l'amour. Toutes les fraternités maçonniques s'appuient sur le principe de l'amour. Le signal, si vous ne le savez pas. Mais nous, nous appuyons sur une personne qui incarne l'amour. Amen. Et cette personne, eh bien, nous avons une relation avec elle, et nous, si nous voulons être disciples, nous sommes censés obéir à cette personne, parce que l'obéissance est agréable à quelqu'un, à un maître comme Jésus. La deuxième chose importante pour un docteur, c'est de consolider la foi. Il doit consolider la foi des membres du corps. La mission du docteur n'est pas seulement de fonder l'Église sur un point de vue doctrinal, mais de rétablir la vérité, la tradition, mais il doit donner du sens à ce qui est écrit. Prenez Matthieu, regardez le docteur Jésus. Dans Matthieu chapitre 5, verset 21, Jésus dit, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » C'est vrai ça? C'est écrit dans la loi, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible de jugement. Moi, Jésus, le docteur d'Israël, je vous dis, moi je vous dis, qu'est-ce qu'il va dire Jésus? Il va dire l'inverse? La loi est suffisante, non? Et il est dit, tu ne commettras pas de meurtre. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus dit, moi je vous dis, vous vous dites, moi je vous dis. Quiconque se met en colère contre son frère sera passible de jugement. Celui qui dira à son frère raca, c'est-à-dire imbécile, sera justiciable de Sanhédrin. Celui qui dira insensé sera passible de la géhenne du feu. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que Jésus vient de faire en tant que docteur? Il a pris une écriture. Tu ne tueras pas. Enfin, tu ne commettras pas de meurtre. Pardon? Non? Non, 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 non. Il n'a pas élevé le niveau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné du sens. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donner du sens. Voyez-vous, hier, bon, vous l'aurez tous, la vision de l'Église, c'est donner du sens. L'idée, c'est donner du sens. Les gens, ils cherchent du sens à leur vie. Hello? Vous êtes d'accord? Ils cherchent du sens. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais là? Où est-ce que ça va me mener? je vais mourir, et puis c'est chercher du sens. Et Dieu donne du sens. Il ne donne pas la loi pour la loi. Il ne dit pas, tu ne commettras pas de meurtre parce que ce n'est pas bien de commettre du meurtre, c'est parce qu'il y a du sens derrière. Quel est le sens derrière, voyez-vous ? Et le docteur, il explique le sens de l'écriture. C'est ça la différence entre la loi qu'on essaye d'appliquer, comme on peut, et comprendre le sens. Et Jésus donnait le sens. Il dit, vous dites, ok, parce que vous en tenez là. Hein, ok, il ne faut pas donner de meurtre. Et puis, en plus, on va, comme disait Olivier, dans la loi, il y avait les peines qui étaient associées à la loi. Donc, si vous commettez un meurtre, il y a ça, ça, ça. Ça, c'est très humain. C'est très petit. C'est pas le sens que Dieu a voulu donner. Donc Jésus explique le sens et dit non, non, non. Si c'est écrit, c'est parce que Dieu, dans sa pensée, c'est que si ton frère, parce que si tu viens meurtrier, si tu comme Abel a tué, Caïn a tué son frère, c'était quoi? C'est parce que dans son cœur, il avait de la haine pour son frère. Parce qu'il était jaloux que lui était approuvé. Voyez-vous, c'est le problème de jalousie, c'est le problème de tout ce qu'il y a derrière. Et donc la jalousie, ce n'est pas simplement de le tuer, c'est déjà avant même de lui dire « tu es un imbécile hein ». C'est-à-dire être méchant. Voyez, bon, on peut dire des choses comme ça, sans forcément y penser, mais quand je le dis vraiment, je veux dire que je le tue, je le commets un meurtre. Voyez-vous, c'est pour ça que dans l'Église, et dans les couples, et dans les familles, il faut qu'il y ait le pardon. Parce que parfois on peut faire blesser quelqu'un vraiment mal par des paroles anodines. C'est la façon dont c'est dit qui tue, fait mal. Et à un moment donné, moi j'étais pas trop sensible à ça parce que je suis d'origine scientifique. Bon, donc j'étais un peu au-dessus de tout ça. Et puis bon, les sentiments, tout ça, bon, c'est très bien, mais bon. Un homme, non, je sais pas, c'est un homme. C'est peut-être le genre masculin, mais pas un homme. Un homme, il doit avoir les deux. Jésus pleurait, hein. Il exprimait ses sentiments. Simplement pour dire qu'on avait un homme dans l'église, certains le connaissaient, Ricardo, qui était d'origine brésilienne, donc il exprimait ses sentiments plus facilement et tout ça. Et puis à un moment donné, dans un conseil, bon, vous savez, les conseils, c'est parfois assez technique et tout ça. À un moment donné, lui souffrait, enfin, mais c'était émotif. Il dit, oui, mais André, il faut que tu tiennes compte des émotions, c'est une réalité. Je dis, ah oui, c'est une réalité. Il faut tenir compte de la réalité de l'émotion. Je le sens vraiment et il faut tenir compte. Et c'est là que j'ai commencé à réaliser. Je dis, oui, c'est vrai, l'émotion, c'est pas simplement parce que j'ai envie de pleurer. Non, c'est une réalité. Au même titre que de réfléchir à un concept vraiment très élevé, l'émotion c'est une réalité, il faut tenir compte. Si je dis à Claire, tu es qu'une imbécile, voyez-vous, il y a une émotion qui se produit. C'est pas forcément le mot, c'est l'émotion de dire je suis dévalorisé, machin. Enfin, il y a tout un mécanisme émotionnel qui se met en place quand c'est ça, quand c'est dit méchamment, voyez. Et Jésus, il dit, si toi tu dis ça, tu es passible de la GN. De l'enfer. Voyez-vous, l'esprit du meurtre n'est pas ce que je fais, mais déjà avant même que la mort, il peut y avoir une mort d'une partie de l'être et la relation se ressent. Mais si je m'aperçois après que je l'ai dit, etc., ben je te demande pardon, je ne vais pas dire ça, etc. Alors les pardons peuvent être plus ou moins gradués, mais le geste est important de le faire. Et dans mari et femme, c'est à mon avis le principal problème entre les époux qui ne prennent pas le temps de se pardonner. Donc ils disent oh bah le temps fera le reste. Non, c'est pas le temps qui fera les choses. C'est votre action, c'est notre action de corriger les choses. Les émotions blessées, il faut demander pardon. Il faut faire un acte qui rétablisse les choses dans une relation juste. Amen. Le Christ dit encore, alors là je lis dans Matthieu 20, verset 28, « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. » C'est la loi? C'est vrai? C'est écrit? Dans la loi? Bon. « Moi je vous dis, le docteur, il donne du sens. Moi je vous dis. » Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Est-ce qu'il annule la loi? Non. Il donne le sens que Dieu a voulu mettre dans l'adultère. Il dit, moi je dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Voyez-vous le sens? Le sens, c'est que, vous voyez, quand vous êtes dans la forêt, ça vous arrive de rencontrer un chemin qui est juste comme ça, bifurqué. Vous savez que vous devez aller à gauche. Enfin, vous devez aller quelque part, mais en pleine forêt, vous ne savez pas. Et vous êtes là, ce n'est pas très franc, et vous ne savez pas quoi choisir. Et bien, ça commence là, l'erreur. Si vous trompez là, eh bien, 10 km après, vous serez au mauvais endroit. Et l'adultère, c'est pareil. Si vous commencez déjà à regarder une femme en la courantant, vous avez déjà commis l'adultère, parce qu'en fait, le résultat, il va se terminer par l'acte. Voyez-vous ? Et donc, Jésus donne le sens. Au verset, dans Matthieu chapitre 5, verset 33, Jésus dit, « Celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Mais je vous dis, de ne pas jurer, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la vieille ville, la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par sa tête, parce que tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu, que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. » Jésus donne du sens, et on a besoin de sens. Alors, et c'est pour ça que la vision qu'on a faite dans l'Église, c'est de donner du sens à notre vie chrétienne. Comment vivre la vie chrétienne? Quel est le sens de notre existence ici-bas? Et ça, c'est le docteur qui doit le donner. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 43, Jésus dit, il vous a été dit, mais il est écrit. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous persécutent. Pourquoi la parole doit être établie par le docteur? Eh bien, afin que les frères ne soient pas balancés à tout vent de doctrine. Car le mensonge et l'erreur font balloter ceux qui les reçoivent. Quand vous recevez une erreur, l'idée de l'erreur, du serpent, c'est de vous faire balloter. C'est pas de vous faire adhérer tout de suite à l'erreur. Ça, c'est des mensonges grossiers que Satan n'utilise pas, parce qu'il sait depuis des milliers d'années que ça ne marche pas. La meilleure erreur, c'est d'abord faire balloter. Ah, je ne sais pas trop. Ben, tu vois. Alors que le docteur, il établit les choses. Jésus a établi des choses claires, justes, qui n'ont pas à voir des choses en balottement. Je me rappelle à l'époque du... le Toronto Blessing, là. Et beaucoup d'églises qui ont été divisées dans le monde entier. C'est pas à cause de ce qui s'est passé à Toronto, c'est parce qu'il n'y avait pas d'explication claire par des docteurs qui précisaient, et non seulement en clair, mais parfois il y avait même des justifications de certaines pratiques tirées de l'Ancien Testament, en tirant par les cheveux, bien sûr, les choses, et ça fait balloter les chrétiens. Donc, consolider la foi. Établir la foi, ça c'est important. La foi dans le Dieu des miracles. Pas dans les miracles, mais dans le Dieu des miracles. Dans Jésus, dans celui qui est l'autorité suprême. La troisième chose et la dernière que je citerai du ministère de docteur, c'est de savoir lire les signes des temps. Savoir lire les signes des temps. Le docteur des Saintes Écritures doit lire et expliquer les signes des temps. Jésus, très souvent, quand il était avec ses disciples, en tant que docteur, il leur disait « Je dois souffrir, je dois mourir, je dois... » Et ce n'était pas accepté par les disciples. Durant, jusqu'à la fin, et même à la fin, ils ont été complètement déboussolés quand ils ont vu Jésus arrêté, et ils pensaient qu'au dernier moment, il allait s'en tirer. Pourquoi? Parce qu'un maître, à l'époque, eh bien, c'était quelqu'un qu'on pensait être supérieur, plus fort que vous. Vous étiez derrière un maître par rapport à d'autres situations. Et il s'attendait à ce que Jésus... Ben non, un maître ne peut pas mourir. Et c'est pour ça que Pierre, Satan a pu rentrer en lui. Pourquoi? Parce qu'il était tellement persuadé au fond que Jésus ne pouvait pas mourir que Satan a pu se saisir de lui et utiliser sa bouche en disant « Non, tu ne mourras pas. Jésus a dit, mais attends, c'est pas les pensées de mon Père. Voyons. Mais c'est ce qui se passe quand on n'a pas la pensée de Dieu, on pense humainement. Et très souvent, dans des situations où nous cherchons la volonté de Dieu, si nous pensons humainement, mais nous tombons dans les pièges parce que l'ennemi nous tend des pièges. Et voir les signes des temps, ouvrir l'intelligence. Dans le passage de Jésus, quand il marche avec les disciples d'Emmaüs, hein, vous avez ça dans Luc chapitre 24, verset 44, il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophéties, dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Les disciples d'Emmaüs, qui étaient disciples très proches de Jésus, même lorsque Jésus était crucifié, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris qu'il allait ressusciter, pourtant il leur avait dit. Voyez-vous, on peut connaître la parole et passer à côté du sens de la parole. Et Jésus a dû leur ouvrir l'intelligence en leur expliquant les Écritures, la loi et les prophètes qui parlaient de lui. Il s'est appuyé sur les Écritures. Il s'est peu appuyé sur une spéculation. Bon, les femmes ont vu, ok, ça c'est l'expérience et tout ça, mais ils n'ont pas cru pour autant, hein, les disciples d'Emmaüs, parce que disaient les femmes. Mais Jésus, par les Écritures, il leur a ouvert les yeux pour comprendre les signes des temps, que Jésus devait venir comme serviteur souffrant. Dans le Nouveau Testament, les docteurs étaient ceux qui expliquaient aux Juifs et aux païens l'accomplissement de la loi. Et dans Matthieu chapitre 23, versets 33 à 34, voilà ce que Jésus dit contre les pharisiens. Il dit, serpent, race de vipère, comment fuirez-vous la condamnation de la géhenne, de l'enfer? C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages, des scribes. Vous tuerez et vous crucifierez les uns et vous flagellerez les autres dans les synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Attention, ce n'est pas l'Ancien Testament. Jésus dit ça aux pharisiens pour des choses qui allaient venir. Et qu'est-ce qui s'est passé après la mort de Jésus pour les disciples, pour les apôtres? Il y en a qui étaient crucifiés. Pierre était crucifié la tête en bas. André en croix, crucifié, lapidé, torturé. Il n'y a que Jean qui était à l'île de Patmos qui a survécu à cela. Et ça, c'était les scribes de l'époque. Parce que scribe, ce n'est pas simplement un mot de l'Ancien Testament. C'est ceux qui connaissent la parole. C'est les docteurs. Scribes, les prophètes, ils étaient prophètes, ils étaient apôtres, ils étaient tout ça. Eh bien, ces docteurs de la loi, non seulement ils ont crucifié Jésus, non seulement ils n'ont pas reconnu la résurrection de Jésus, mais en plus, ils ont pris les disciples et les ont crucifiés. Ils les ont torturés, ils les ont massacrés, comme dans l'Ancien Testament. Ça n'a rien changé. Le Nouveau Testament ne change rien au cœur de l'homme. Il est toujours aussi mauvais. Seuls ceux qui aiment le Seigneur, ils reconnaissent les signes des temps. Dans le Nouveau Testament, Jésus dit, on l'a commenté cet été, « Tout scribe inscrit de ce qui concerne le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Le vrai scribe, celui qui connaît la parole, eh bien, lorsqu'il connaît ce trésor, quand il découvre ce trésor, qui sont les mystères du royaume de Dieu. C'est quoi le royaume de Dieu? Jésus a enseigné le royaume de Dieu. Il faut que nous connaissions le règne de Dieu, le royaume de Dieu. Quand il découvre l'évangile du royaume, eh bien là, il peut puiser des choses anciennes, la loi et les prophètes qui s'accomplissent, et des choses nouvelles, les doctrines que Jésus a enseignées, qui donnent le sens à l'Écriture et qui prolongent le ministère de Jésus sur la terre. Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1er, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des administrateurs, des gestionnaires des mystères du royaume de Dieu. En tant qu'administrateur, le docteur doit être réglé dans son enseignement pour ne pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire, pas la pratique avant l'écriture. Il faut que l'écriture dirige la pratique et dise si la pratique est conforme ou pas à l'écriture. le scribe du Nouveau Testament, il explique la loi et les prophètes et les choses nouvelles, ce qui sont les mystères du royaume de Dieu. Je vais m'arrêter là et simplement dire un mot pour terminer, pour dire est-ce que nous connaissons les signes des temps aujourd'hui ? Il y en a qui connaissent les signes des temps, dans quel temps nous sommes. À l'époque de Jésus, ils n'ont pas reconnu les signes des temps. Aujourd'hui, mes amis, nous sommes dans les temps de la fin où Jésus va revenir. Et nous sommes environnés d'une séduction bien plus grande qu'à l'époque de Jésus. Et cette séduction passe par tous les médias aujourd'hui. Et si nous ne sommes pas avertis de ces signes des temps, nous allons être entraînés à tout vent de doctrine. Dans Apocalypse, et je termine sur ce verset, chapitre 22, verset 11, il dit que ceux qui se purifient encore, et ceux qui se souillent encore. Nous sommes dans des temps où la séparation va se faire, et se fait déjà, entre ceux qui veulent se purifier, qui veulent se sanctifier, les chrétiens qui veulent être debout. Mais ils ne le sont pas par hasard, c'est parce qu'ils décident d'être se sanctifier. Et ceux qui se souilleront encore plus. Donc il y aura une souillure de plus en plus. Regardez le débat sur les gendres, hein, où vous pouvez choisir. Hein. Tiens, tu peux choisir si tu veux être un homme. Voilà. Et c'est ce qu'on va enseigner à nos enfants. Dans les livres de science, pardon. Science, alors que c'est de l'idéologie. Et Christine Boutin l'a bien défendu auprès des journalistes et des députés. Et oui, que celui qui se souille encore. Et tout ça parce qu'ils ont peur des créationnistes. Tout est bon, y compris le mensonge, pour essayer de faire passer les idées. Que ceux qui se souillent encore. Nous sommes dans des temps, nous devons reconnaître, lorsque Jésus est à la porte, le diable met tout le paquet pour nous empêcher de nous sanctifier encore. Que le Seigneur nous aide cette année à chercher non pas la sanctification pour la sanctification, mais la sanctification pour que nous puissions discerner les temps, être de ceux qui puissent être la colonne et l'appui de la vérité. Je vous invite à prier. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire parce que, Seigneur, nous le voyons au temps des apôtres, combien la confusion et les ténèbres étaient grandes. Et Seigneur, aujourd'hui, nous voyons aussi cette confusion régner souvent dans les églises, chez les chrétiens. Nous te demandons ta grâce pour que nous puissions être affermis sur les Écritures, affermis sur le sens des Écritures, pas simplement sur l'aspect légal, mais sur l'esprit, non pas la lettre. Seigneur, que nous puissions non pas discutailler pour dire « ouais, je fais ça et ça suffit », non. Seigneur, que nous puissions appliquer l'esprit de la lettre tel que toi tu l'as enseigné en tant que docteur. Et que si nous blessons quelqu'un par un mot, par une émotion qui l'a blessé, Seigneur, que nous puissions appliquer le pardon et toutes les choses que tu nous as apprises dans la doctrine chrétienne. Seigneur, nous te demandons ton aide en toutes choses pour que cette année soit une année de victoire pour chacun et pour l'Église ici au Bergenville, et que nous puissions être cette colonne et l'appui de la vérité, et que les gens viennent parce qu'ils ont, hâte, ils ont le désir aussi d'adhérer à cette vérité. Nous te prions pour, Seigneur, que tu agisses dans ce sens au nom de Jésus.